Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à vous, Armand Dubois au micro. Bienvenue à cette destination bonheur. Au gré du temps, notre invité est devenu le nouveau protecteur du citoyen, à tout le moins la question mérite d'être posée. Avec un langage coloré, il peut disséquer avec l'art d'un chirurgien des rapports économiques arides et nous faire comprendre les dérives d'une économie qui, à son avis, devrait provoquer l'éveil des citoyens. Avec nous aujourd'hui, M. Léopold Lauzon. Bonjour, M. Lauzon.
Bonjour, M. Dubois.
Effectivement, je disais provoquer l'éveil des citoyens, c'est un peu la mission que vous vous êtes donnée, en quelque sorte.
Bien, provoquer l'éveil, vous savez, ça part d'un fait. En pleine période d'opulence, de croissance économique, au Canada et au Québec, on vit une croissance économique qui s'est jamais vue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on n'a jamais vu autant d'inégalités. On n'a jamais vu autant de pauvreté infantile. Le Canada est le deuxième pays occidental en termes de pauvreté infantile. Il y a des statistiques effarantes sur les enfants qui vont à l'école, qui ont pas mangé, etc. Alors, provoquer, moi, mon but premier, c'est de combattre ces inégalités-là, de parce que je suis, parce que je fais. Et la façon de combattre, vous ne pouvez pas combattre les inégalités si les gens, et ça, je ne dis pas ça de façon péjorative, si les gens sont ignorants. Les gens, parce que vous savez,
Donc, il y a une œuvre pédagogique dans ce que vous faites.
Oui, parce que nos exploitants, nos profiteurs sont forts de notre ignorance collective. Alors, il est bien évident qu'ils ont les médias avec eux, ils ont les gros organismes de recherche, ils ont le patronat avec eux, etc., qui vont essayer de vous dire toutes sortes de choses. C'est pas une de la désinformation, de la propagande, c'est carrément des mensonges. Alors, il faut donner la réplique à ça, parce que les perdants de toutes ces politiques fiscales, les politiques économiques qui ont été mises en place, qu'on appelle le néolibéral, ça se fait au détriment des plus mal pris, des plus démunis en société, de la classe moyenne. Vous regardez aux États-Unis, qui est le laboratoire des pratiques du néolibéralisme, là, surtout, ça a été accentué avec le présence de Bush là, depuis les deux derniers mandats, mais ça a commencé avec Reagan, Bush, Pesatora, mais c'est le pays le plus riche au monde, mais le pays où il y a le plus d'inégalités économiques, il y a 37 millions de pauvres, il y a 47 millions d'individus qui n'ont aucune couverture d'assurance, il y a 7 millions d'individus qui sont sous le coup de la justice pénale. Ça fait peur.
Et d'où vous vient justement cette énergie, parce qu'on la sent dès le départ, cette énergie de vouloir constamment débattre de ces questions? Parce que vous êtes vous-même issu d'un milieu populaire, vous êtes du centre-sud de Montréal, d'une famille qui était, j'imagine, moyenne.
Oh non, très, très pauvre. Écoutez, moi, je viens de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, où est l'église Saint-Pierre-Apôtre, le centre Saint-Pierre-Apôtre, où est actuellement Radio-Canada. Donc, je viens d'une famille monoparentale. J'ai pas eu de pain. Mon père nous a quittés. Moi, mes deux sœurs et ma mère, j'avais à peine 6-7 ans. On l'a plus jamais revu. Et là, on se place dans les années, fin des années 50, où, justement, c'était l'État néant. Il y avait pratiquement d'État, là. Exemple, les gens mal pris dans la société, il n'y avait pas de protection pour les travailleurs, il n'y avait pas pour protection pour les femmes seules.
Donc, dès votre jeune âge, confronté à cette réalité.
Voyez, c'est ça, on peut parler. Après, moi, je peux vous parler du point de vue académique ou théorique. Je peux souffrir avec les gens qui sont victimes de viols ou de vols ou de etc. Mais la pauvreté, ça, je l'ai expérimenté. Et ça, je l'ai vu. Tout ce que ça l'amène comme misère, ce que ça l'amène. Vous savez, on vivait dans une société, c'est ça qu'on revient à ça. C'est quoi votre liberté? C'est quoi votre horizon quand vous vivez dans une société où, d'un côté... Vous savez, parce que déjà, M. Dubois, si vous venez au monde pauvre, par contre, la société vous offre, à vous et votre famille, un accès universel et gratuit à tous les services publics, que ce soit l'eau, le chauffage, la santé, l'éducation, l'aide juridique, vous avez une chance de vous en sortir. Mais dans ce temps-là, et on revient à ça, d'un côté, vous êtes un... C'est pas moi, un pigeon. étiez juste un travailleur autonome, que vous avez une contingence, vous perdez tout. Donc, vous êtes un démuni dans la société. Alors, et de l'autre côté, vous n'avez plus accès aux services publics. Il n'y en existait pas. Alors moi-même, oui. J'ai vu, moi, des gens bien plus brillants que moi. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ça fait, comment dire, une combinaison explosive, pauvreté et absence de services publics. Et il y en a plusieurs qui ont viré dans la criminalité et qui, faut pas l'oublier aussi, sont morts parce que, vous savez, ça, c'est statistique des gens qui naissent dans des quartiers pauvres. Pauvres, surtout de familles monoparentales, mais c'est statistiquement démontré qu'ils vont vivre 10 ans de moins que des gens qui viennent d'une famille aisée. Alors, une fois qu'on sait ça, tolérer ça, ceux qui tolèrent ça, puis qui amplifient ça, ce sont des criminels, faut pas avoir peur de le dire.
Alors, M. Lauzon, cet ancrage dans ce milieu de pauvreté a tissé beaucoup ce que vous êtes.
Écoutez, M. Dubois, moi, je l'ai vécu. Imaginez-vous ma mère, là, qui nous aimait, puis avait elle-même des gros problèmes psychologiques, parce qu'elle-même a eu une enfance épouvantable. Bon, les fins de mois, les trois derniers jours, on mangeait presque pas. Nous habiller, bon, mais des fois, c'est pas moi, une paire de godasses ou de running shoes qui coûtait pas trop cher, mais elle pouvait pas nous lâcher. Imaginez-vous quand on lui demandait des choses. Imaginez-vous une mère de famille qui a trois enfants, puis ses enfants s'en vont à l'école sans avoir mangé, ou les trois derniers jours du mois, ils mangent presque pas. Comment cette femme-là peut souffrir? Et ça, je l'ai vécu. Donc, en partie, ça vient de là. Ça vient aussi de ma foi chrétienne. Une chance que dans notre quartier, moi, j'ai été élevé par les frères Maristes et les Oblats de Marie Immaculée à l'Église, etc., qui nous ont donné un merveilleux coup de main, qui nous encadrait. Et ça vient aussi de ma job. Je suis payé pour ça. N'oubliez pas que je suis prof d'université. Je suis un petit bourgeois. Je gagne 100 000 par année. Et notre job, à nous, c'est de jeter un regard critique dans la société.
Alors, nous reviendrons justement sur cet ancrage, sur votre foi chrétienne également. Nous allons remonter dans le temps avec une chanson qui s'intitule « Avec le temps ». Léo Ferré, qui a beaucoup chanté aussi « La solitude », les inégalités. Alors, Léo Ferré, avec le temps.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé, qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens.
Vous êtes à Destination Bonheur, notre invité aujourd'hui, Léopold Lauzon, qui a publié récemment « Contes et contes » du prof Lauzon. Tome 3, bien sûr. Dans ce livre, vous dites, et je cite, « Je suis un socialiste chrétien qui assume et qui est très fière de l'être. La gauche tient à créer autant de richesses possibles que la droite, mais pas au détriment des gens et de l'environnement. Par contre, alors que la droite vise la concentration de la richesse, la gauche a pour objectif principal la répartition équitable de celle-ci.
Mais autant de richesses.
Qu'est-ce qu'un socialiste chrétien en 2007?
Ben moi, je dirais ça, là. Vous savez, c'est un comment dire, c'est un pléonasme qu'on dit. Quiconque est chrétien, quiconque lit la Bible, quiconque lit les évangiles, les gestes posés par Jésus-Christ de Nazareth, quiconque lit aussi les chroniques hebdomadaires de Mgr Turcotte dans le Journal de Montréal, quiconque est chrétien est socialiste. Ça va de soi. Écoutez, on peut pas être chrétien ou catholique sans être socialiste. C'est impossible. Alors, ce qui nous est prêché, exemple, tout ce qui nous est prêché par le néolibéralisme, c'est l'antithèse du christianisme ou du catholicisme comme l'individualisme.
C'est-à-dire la notion de partage qui doit être...
Ben voilà! Puis la notion de bonheur est pas la même chose, alors que dans le néolibéralisme, puis les gens de droite, eux autres, bon, ben, on va y parvenir par une réussite personnelle, par l'individualisme, par la liberté individuelle, par la compétition, la concurrence effrénée entre nous. Alors, c'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants quand ils sont leur berceau. C'est pas ça. Alors, tous les pays socialistes, prenez les pays d'Europe du Nord comme la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, qui sont des pays socialistes, créent autant de richesses que tous les autres pays comme
mais
les États-Unis.
Mais le paradoxe, M. Lauzon, oui. C'est que on a vu le rêve communiste s'effondrer. On a vu que dans les pays dits socialistes au cours du 20e oui. siècle, la liberté religieuse était aussi contrainte. Il semble qu'il y a des paradoxes
bon, instant,
à ce niveau.
Un instant. Là, je sais pas. Ça dépend de ce qu'on entend par socialiste. Et bon. Premièrement, je vous ai parlé des pays d'Europe du Nord. Moi, je suis pas pour l'État. J'ai jamais dit que j'étais pour l'État partout. J'ai jamais dit que j'étais contre les initiatives privées. J'ai jamais dit que j'étais contre le profit. J'ai jamais dit tout le monde le même salaire dans la société. Je suis prêt à accepter des inégalités, mais il y a des limites aux inégalités. Alors, si on prend les pays comme référent, la Norvège, la Suède que je mentionnais tantôt. Le Danemark et la Finlande. Moi, je considère ça comme des pays socialistes qui ont des bons... Ici, on parle du modèle québécois, mais surtout en termes de programmes sociaux, il y en a beaucoup plus. Prenons l'éducation. Bon, elle a des garderies à l'école, à l'université. Puis là, à l'école, c'est pas rien que l'école qui est gratuite, les repas, les fournitures scolaires, les dictionnaires, alors qu'ici, ça ne l'est pas. Bon, socialiste, prenez Cuba. Cuba, c'est socialiste, mais il faut voir ce que c'était avant du temps de Batista, où il y avait une poignée d'individus qui vivaient de façon très opulente, alors que tout le reste crevait. Et à l'heure actuelle, moi, je vais souvent à Cuba parce que je trouve que c'est un beau modèle de socialisme où il n'y a plus de secteur privé qu'il y en avait du temps de Batista. Et puis, on se rend compte qu'il y a une liberté religieuse, il y a des églises, le fidèle a rencontré l'évêque de Cuba, etc. Mais on colporte tellement de choses que sur le socialiste que, vous savez, même actuellement, comme on essaie de diaboliser Hugo Chavez, avant qu'il rentre, mais là aussi, c'était une poignée d'individus qui contrôlaient toute la richesse du pays. Et puis, le reste crevait de faim dans un pays immensément riche. Là, il essaie de mettre en place des mesures. Ce gars-là, il a été élu 3 fois démocratiquement avec plus de 60 % des votes. C'est très démocratique. Les changements qu'il veut faire, c'est des changements tout à fait. On n'arrête pas de dire, il a fermé une station-service. Ici, on en a fermé une. Choix FM, mais ça, on ne parle pas, qui était pourtant la plus écoutée au Québec. Bon, ça dépend aussi de ce que ces stations-là
disent. Mais est-ce qu'on peut, aujourd'hui, est-ce que oui. vous avez l'impression avec le regard que vous pouvez jeter sur la réalité de la société. Est-ce que vous croyez que l'Église, oui. Actuellement, transmet bien ce message de partage? Ce message qui semble être... que vous vous êtes approprié puisque vous vous définissez comme un socialiste chrétien?
Moi, je pense que oui. Mais vous savez, quand on dit... c'est vrai qu'il y a certains systèmes qui ont boycotté la religion. Mais ici, vous savez, le capitalisme, les capitalistes plus réduits, les systèmes capitalistes vont tolérer la religion. Mais essayez pas de chambouler le système, par exemple. Tu sais, ils vont vous... Moi, c'est la plus belle parole, je l'ai lue, Mgr Carrara, qui est un archevêque au Brésil, un archevêque catholique au Brésil, qui a dit... Quand je donnais du pain, quand j'organisais des soupes populaires, des téléthons, des banques alimentaires, là, les politiciens puis le patronat gens-là m'aient même considéré comme un saint. Mais quand j'ai commencé à expliquer aux démunis pourquoi ils étaient pauvres, puis pour quelles raisons, puis comment s'en sortir, là, ils m'ont traité de communiste. Puis c'est drôle, j'ai pu être invité là, dans les télétons, dans les activités, etc. Parce que là, ils commençaient à leur expliquer, oui, c'est un problème structurel, puis vous en sortir, il faut changer le système. Moi, j'en ai contre. Exemple, c'est pas la mission religieuse, c'est pas la mission de l'Église. Oui, pour dépanner, mais à long terme, là, des soupes populaires, des banques alimentaires ou des télétons ou de la bourse millénaire là, où on invite pour régler les cas de pauvreté, on n'en sortira pas.
Monsieur Lauzon, nous allons avoir une pause rafraîchissante. Vous avez parlé des pays nordiques. Voici un folklore écossais. Notre invité aujourd'hui à Destination Bonheur, M. Léopold Lauzon, qui est perçu comme un économiste, mais en fait, vous êtes un comptable.
C'est voilà, exact. Voilà.
Vous avez fait votre doctorat à Grenoble?
C'est ça. Moi, écoutez, je suis comptable, mais, première, je suis comptable agréé. Donc, dans mes cours, j'ai une maîtrise en gestion, concentration finance, puis j'ai un doctorat en gestion. Donc, dans tous ces cours-là, j'ai eu bien plus de cours d'économie qu'un économiste qui a un bac ou qui a une maîtrise en gestion concentration. J'ai eu, écoutez, peut-être 5-6 cours de fiscalité. J'ai eu des cours sur les regroupements d'entreprises, l'information en période de fluctuation des prix, les regroupements d'entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui pensent des fois, même si je suis pas économiste ou fiscaliste, mais j'ai eu pas mal plus de cours de fiscalité que des économistes ou pas mal plus de cours d'économie que ce que certains s'affublent du titre d'économiste.
Monsieur Lauzon, certains trouvent que le personnage Lauzon a des aspects clownesques, mais tout le monde reconnaît que les études que vous avez déposées sont sérieuses, que les analyses sont faites de façon très sérieuse. Comment vous faites le partage? Parce que vous savez ce que je viens d'évoquer. On dit que Léopold Lauzon est la caricature de lui-même.
Ouais.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous...
Écoutez, moi ça ne me fait pas un pli ou ça ne m'énerve pas. Ça, parce que les gens, quand ils ne sont pas capables de vous attaquer sur le fond... Moi, écoutez, j'ai pas de complexe de supériorité, mais ni d'infériorité. Aux examens de comptable agréé, j'ai fini premier au Québec, troisième au Canada. Aux examens de comptable en management accrédité sur 4000 candidats, j'ai fini premier au Canada. Fait que, tu savais, je m'en vante pas, je le dis comme ça, mais essayez pas de m'intimider. Parce que la première chose que ceux qui sont pas d'accord, puis ceux qui veulent exploiter le monde, vont essayer de vous attaquer sur le fond. Dire que vous êtes un incompétent, voyons donc. Puis il y en a un exemple qui essaye de dire le comptable en voulant dire, mais Chris, il oublie que j'ai une maîtrise en administration, concentration finance, un doctorat, bon, ils vont essayer... Alors là, ils sont pas quand même sur le fond. Là, ils vont essayer sur l'aspect de votre personnalité. Ils vont dire, il est folklorique, il est ici. Mais ça, ces gens-là qui me crient des noms, sans m'honneur, moi qui me crie des noms, vous savez, qui ne s'en fait pas crier? Écoutez, moi, je suis pas une vedette ou je suis pas un joueur de hockey. Je vais commencer à m'en faire puis à envoyer des lettres dans les journaux pour dire, je suis offusqué, on me criait un nom, tu sais. Hey, écoute, on me crie un nom, hein, puis je m'en ferais pour ça. C'est-à-dire, ma foi ne serait pas tellement profonde, là. Je m'en ferais pour ça alors qu'à côté de moi, il y a des millions d'individus, d'enfants qui sont en train de crever, puis je m'en ferais parce que vous me criez. Ça vous tente de vous crier des... Amusez-vous, mais il y en a dans un petit cercle intellectuel, un petit cercle bourgeois, etc. C'est sûr, moi, des fois, je me dis, qui suis-je, tu sais? Des fois, je fais pas comptable agréé, je fais pas universitaire, je fais pas intellectuel, je fais pas, ben tu sais,
mais vous croyez profondément ce que vous défendez.
Ben voilà, moi...
L'autre paradoxe...
Le reste, là, faut pas s'en faire avec ça.
Vous êtes probablement très interpellé par ce qui se passe au sein de votre université. Deux choses. D'une part, la question des budgets de l'université avec l'îlot voyageur qui a amené un profond déficit. En tant que professeur d'une université populaire comme celle de l'UQAM et où on a menacé à un moment donné même de peut-être réduire certains budgets de recherche pour financer cet îlot, un îlot qu'on a quand même défendu, que les gestionnaires de l'université ont défendu en disant qu'il était important que tout cela existe. Comment, où vous vous situez, vous, dans tout cela?
Bon, c'est un problème là, très anecdotique au niveau des problèmes de société. Là. Bon, là, et c'est sûr qu'encore une fois, on a diabolisé l'ancien recteur, Roch Denis. C'est sûr qu'il y a un déficit, mais à moyen pas longtemps, on n'a pas regardé, c'est peut-être, ça va être peut-être très bon. Là. Il y a des aspects positifs à cet îlot-là. Vous savez, ce coin-là, c'est grâce à l'UQAM qui le revalorise. Le coin avec l'avenue de la Grande Bibliothèque, c'est certainement pas Télémétropole où c'est une horreur, où Radio-Canada crée ce
tour. Mais trouvez-vous que les gestionnaires...
Alors que 10 fois plus... Ben, moi, je pense que peut-être qu'à court terme, ils ont pris des mauvaises décisions, etc. Mais peut-être qu'à long terme...
Mais est-ce que les gestionnaires sont suffisamment... est-ce que la notion d'imputabilité est suffisamment présente dans la culture de gestion?
Mais peut-être, mais moi, je veux pas m'épiloguer, parce que c'est où je vais épiloguer au niveau universitaire, le problème, et puis ça, il faut que ça vienne. Voyez, regardez comment qu'on... C'est pas, je lisais l'itinéraire, puis il y avait un poète, le cinéaste, qui était itinérant aussi, qui disait « La vérité est un mensonge ». Moi, j'ai trouvé ça beau. Exemple, là, encore aujourd'hui, là, un éditorial dans Presse dit « Les étudiants se plaignent pour rien, ils ont les plus bas tarifs en Amérique du Nord ». C'est ça, en Amérique du Nord, mais dans le monde, en Europe, prenons tous les pays de l'Europe, prenons en France, prenons en Allemagne, où l'université est totalement gratuite du début à la fin. Puis là, vous savez, bon, premièrement, c'est sûr qu'on est les plus bas en Amérique du Nord, mais aux États-Unis, c'est une vraie folie, envoyer vos enfants. C'est pour ça que les pauvres, c'est pas accessible à l'université. Deuxièmement...
Est-ce qu'on peut se permettre la gratuité?
Ben, définitivement. Écoutez-moi, ils me font rire quand ils disent « Ouais, mais là, ça profite aux riches. » Tu sais, c'est vrai que les riches profitent de la gratuité des services publics, mais si on veut... Là, ils se font tout d'un coup, là, comment dire, socialistes. Si on veut vraiment aider par exemple, que les riches profitent des REER à 20 000 $ par année, que les riches détournent dans les paradis fiscaux 88 milliards par année, que les riches ont une partie de leur salaire parce qu'ils font payer leur salaire en option d'achat, il y a juste la moitié de leur salaire qui est imposable. Ça, ils n'en parlent pas. Là, tout d'un coup, ils essayent de nous avoir sur le coup. Oui, on a les moyens, on a facilement, puis je peux vous en trouver facilement deux, trois éléments pour avoir la gratuité, parce que ça, il faut se battre pour la gratuité scolaire de la maternelle jusqu'à l'université.
Vous aimez la musique?
Oui.
Si je vous parle des fleurs de Hollande, ça vous fait sourire?
Ah ben oui, c'est ça. Puis je trouve ça d'une grande beauté. Toutes les fleurs d'ailleurs.
Thank you. Thank you.